D'abord, on voulait vous remercier, bien sûr, d'avoir accepté cet entretien avec SES-ENS.
Ben,
Et puis,
merci à
pour
vous.
l'occasion de la réédition, en fait, de votre ouvrage, donc La socialisation aux éditions 128 d'Armand Collin, on voulait effectivement faire un petit point sur le contenu de cet ouvrage et puis l'état de vos recherches.
Ben,
Voilà.
merci beaucoup.
Donc, on va commencer avec une première question. Vous abordez donc dans votre ouvrage le concept de socialisation primaire plurielle.
Oui.
Nuancez-vous le rôle primordial que joue aujourd'hui la famille dans la socialisation primaire des individus et quelles évolutions percevez-vous dans la force relative des différentes instances de socialisation primaire?
C'est une très grande et très importante question pour commencer. C'est vrai que moi, c'est une des choses que j'ai pu rencontrer, c'est la question de, à partir du moment où on n'est plus sur une seule instance de socialisation, mais où on cherche à percevoir un peu leur diversité et la variation que ça peut représenter, la question du poids relatif. Il y a eu plein d'inter... Enfin, il y a déjà, il y a eu plein, c'est beaucoup dire, mais il y a eu un certain nombre d'interprétations sur justement le poids relatif de la socialisation familiale. Avec des thèses comme ça un peu historiques. Et ce qui m'avait amusée en faisant le 128, c'est que j'avais rencontré en gros des théories qui disaient que la socialisation primaire familiale avait au cours des siècles perdu de sa prééminence, et d'autres qui disaient au contraire qu'elle s'était affirmée comme, disons, la matrice socialisatrice primaire la plus importante, la plus forte. Donc par rapport à ça, moi c'est vrai que, bon, je suis d'abord une. Je transmets d'abord un peu ces différences-là dans un très court paragraphe du 128. Je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. J'ai plutôt l'avis qu'il faudrait justement faire des recherches en termes de sociologie historique sur la socialisation, ce qui existe finalement pas tant que ça quand on pense aux voies qu'a engagé Norbert Elias en fait sur ces questions. Et donc il faudrait en faire plus. Je m'amuse juste un peu dans le 128, mais j'avais presque l'idée de faire une recherche là-dessus. Et puis bon, je suis pas forcément compétente, mais à dire, ben voilà, en gros, est-ce qu'il n'y a pas des siècles où on était tout autant dans les familles bourgeoises socialisées par les domestiques que par ses parents quand on était élevé comme ça, voilà. Ou est-ce que, enfin, d'autres types d'hypothèses comme ça pour dire qu'en fait l'idée de quelque chose qui serait très linéaire. Aujourd'hui, c'est la famille qui socialise, enfin, qui est le groupe socialisateur le plus important, ou aujourd'hui, la famille a perdu sa prééminence parce que, mettons, il y a le groupe des pères, etc. Toute thèse trop linéaire, à mon avis, trop exclusive, est forcément, peut être forcément, disons, un peu contrecarrée par un ou deux exemples empiriques. On va prendre ça comme ça, on va dire, ah oui, mais mettons, au 19e siècle, l'apprentissage pour les enfants des classes populaires, l'exemple des domestiques que j'ai cité, il y a plein de petits faits comme ça empiriques, de choses qui sont, voilà, qu'on peut mettre à contribution pour dire, en tout cas, les choses sont pas forcément très simples, quoi. Et donc, je ne sais pas si c'est une réponse satisfaisante, mais je dirais, il faudrait, enfin, j'ai été surprise du fait qu'après tout, travailler la socialisation en termes de sociologie historique, ce serait également très intéressant. Aussi bien sur plusieurs siècles que même à l'échelle du XXe siècle, où il peut y avoir là aussi, il y a les. Il y a, enfin voilà, quoi, on a des idées de transformation radicale entre, mettons, la première moitié du XXe siècle et puis post-68, mais là aussi, ça demande à être examiné, je pense, de plus près, en fait. Et il n'y a pas tant de choses que ça. Les quelques livres qui existent sont juste là derrière moi. Mais voilà.
Très bien. Donc, autre question. Peter Berger et Thomas Luckmann soulignent que les effets de la socialisation primaire seraient plus prégnants, finalement, et s'inscriraient dans un contexte affectif, en fait, dans le cas de la
Ouais.
socialisation primaire, bien sûr. Est-ce se dire que les produits de la socialisation secondaire s'enracineraient moins dans l'individu?
Donc là aussi, c'est une excellente question. Et puis la réponse est aussi un peu dans la question. Mais c'est vrai que moi, c'est une impression que j'avais eue en lisant enfin, la manière dont vraiment Berger et Luckmann font quelque chose de cette opposition entre socialisation primaire d'un côté, socialisation secondaire de l'autre. Ils ne l'ont pas inventé. On dit parfois qu'ils l'ont inventé. C'est pas, ils ne l'ont pas inventé. Ils disent bien que c'était une opposition qui était d'usage courant avant eux. Mais ils en font quelque chose, je pense, que les auteurs précédents n'avaient pas fait. C'est-à-dire vraiment, ils donnent un sens et une force assez importante à cette opposition. Et effectivement, du coup, bah, pour la réifier, pour enfin pour, plutôt pour qu'elle soit utile, pour qu'elle soit claire, ils sont amenés à la réifier, à la rigidifier. Et là aussi, je fais une sorte de petite boutade dans le 128, sur on a d'un côté, hein, si on prend leur texte vraiment à la lettre, un monde très chaud, maternel, humide, dirait Bourdieu, donc ce n'est pas tout à fait ça, mais un monde en tout cas très enveloppant et très affectif, qui serait celui de la socialisation primaire, et à l'opposé, un monde froid, masculin, bureaucratique, donc sec, dirait Bourdieu, vous voyez auquel je plaisante sur humide et sec, hein, j'espère que. Mais voilà, qui serait celui de la socialisation secondaire, on voit bien celui quand on se met à travailler dans une grande entreprise américaine, corporate business, etc. Donc, bon, c'est évident que là aussi, c'est comme les grandes évolutions historiques, c'est toujours très intéressant. Moi, je trouve, enfin, je suis vraiment, enfin, la dernière peut-être pas, mais j'ai toujours du mal à critiquer ces choses-là parce qu'en fait, elles aident beaucoup à penser. En fait, ceux qui proposent comme ça des choses très, très figées, très, très fixées, c'est aussi des manières ensuite de donner les moyens aux autres de justement chercher les endroits où ça colle pas tout à fait, etc. Et là, c'est évident que ça colle pas tout à fait au sens où il y a plein de socialisation secondaire, de situations de socialisation secondaire qui sont des situations où il y a beaucoup d'affectifs, ou en tout cas il y a des émotions, tout ça voulant pas dire que c'est hors du domaine de la sociologie, ça c'est un autre de mes dadas, mais tout ça voulant dire juste que ben voilà, quand il y a quelqu'un qui se convertit à une religion, quand il y a une socialisation secondaire qui se passe avec un conjoint qui vous apprend à aimer ou à détester certaines choses ou certaines personnes, eh bien ce ne sont pas des situations qu'on peut dire froides, désaffectées, voilà, au contraire, ce sont des situations très émotionnelles. Et inversement, je pense que dans le côté cherchant la petite bête, le contre-exemple, etc., on peut avoir des moments qui appartiennent à la socialisation primaire et qui sont voilà, qui sont très bureaucratiques, qui peuvent se passer après tout sans affect, etc. Enfin, en gros, voilà, ces deux mondes-là, c'est plutôt à chaque fois, là aussi, ça appelle à des analyses empiriques assez précises et assez systématiques, en quelque sorte, de se demander, voilà, c'est une des caractéristiques de telle ou telle expérience socialisatrice, c'est de se demander, ben voilà, dans quelle manière est-ce qu'on est, de quelle manière est-ce que les différentes personnes sont investies dedans, est-ce que c'est vécu comme situation émotionnelle, affective, etc., ou est-ce que ça l'est pas? Donc, à voir, je dirais, dans chaque cas, sachant que c'est pas pour autant qu'on ne peut pas dégager des règles. Voilà, des règles de toute façon, il y a aussi des normes sociales sur la manière dont doivent être ressenties ou perçues les socialisations. C'est-à-dire, il y a des normes sociales sur le fait que dans la famille, il doit y avoir des émotions et que dans le travail, en revanche, ou dans certains types de travail, il ne doit pas y en avoir. Donc, il faut aussi aller chercher comment on se positionne par rapport à ça. C'est-à-dire que effectivement, il y a des socialisations qui vont se donner comme justement non affectives, à voir ensuite si elles sont suivies des faits ou plutôt comment ensuite se positionnent à la fois les agents socialisateurs et puis les socialisés, les acteurs socialisés, les agents socialisés par rapport à ces questions-là, quoi.
Alors justement, hein, j'étais très intéressée par le processus de socialisation conjugale que vous abordez, que
Oui.
vous avez évoqué tout à l'heure. Dans quelle mesure, en fait, la vie commune vient contrecarrer les effets des socialisations intérieures? Vous abordez cette question, c'est intéressant.
Alors, contrecarrer, elle vient effectivement parfois la contrecarrer, et puis mais même avant de parler de contrecarrer, on peut voir déjà toutes les fois où elle vient au contraire renforcer les effets des socialisations antérieures. J'y pense spontanément parce que bon, il y a cette question de l'homogamie qui fait que en théorie relire l'homogamie à l'aune de la socialisation conjugale, c'est dire que en fait le mariage, ou en tout cas la mise en couple, va constituer ce que Bourdieu appellerait des situations où il n'y a pas de crise pour l'habitus, hein, puisque de fait on se met en couple avec quelqu'un qui a toutes les chances d'avoir un habitus, disons, proche, ou qui va avoir certains atomes crochus avec le sien, donc là pour parler en termes bourdieusiens, ou tout simplement voilà, des dispositions qui vont être cohérentes, etc. Donc il y a déjà des situations où la socialisation conjugale va s'inscrire au contraire dans le prolongement de la socialisation primaire. Et on sait par exemple dans les travaux des Pinson-Charlot sur la bourgeoisie, qu'un des rôles du rallye ou de la. C'est justement d'assurer en quelque sorte cette continuité, pardon, dans les familles bourgeoises, c'est pas le rallye automobile, mais c'est d'assurer cette continuité entre socialisation primaire et puis ensuite socialisation conjugale, qu'il n'y ait pas de choc entre les deux. Donc, premièrement, enfin, ensuite, bon, par rapport à cette vision-là, la manière dont on peut, disons, complexifier un peu le modèle, c'est de se dire que de toute façon, il y aura toujours suffisamment de désajustements dans les dispositions, dans les goûts, etc., même un milieu social relativement équivalent, pour qu'il y ait des effets, alors en tout cas, de moindre cohérence ou de moindre congruence. Ça, ce sont des thèmes qui ont été très travaillés par Bernard Lahir, comme vous savez peut-être. Et donc on peut déjà, même dans les cas d'homogamie très très poussée, il y aura toujours des situations où il va y avoir des transformations ou en tout cas des petits accrochages en termes de goût, de disposition, etc. Ou tout simplement, même si ce n'est pas forcément vécu sur un modèle du conflit ou quoi, mais tout simplement des occasions de transformation, de mise en veille des dispositions, pour là encore reprendre un terme de Bernard Lahir. Voilà.
Alors, vous revenez à plusieurs reprises sur l'objet social qu'est le jouet. En quoi porte-t-il la marque d'une position de classe et d'une identité sexuelle ?
Alors, là, c'est vrai que c'est une sorte d'exemple assez idéal typique de l'inscription de ces socialisations, notamment primaires, vu que là, on parle des enfants, dans un contexte de classe sociale et de genre. C'est comme ça que ça a été travaillé. J'y reviens beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a eu, enfin, ça a été un exemple, voilà, un des textes vraiment fondateurs, séminaux, comme on dirait, mais sur la socialisation, c'est celui de Jean-Claude Chambourédon et Jean Prévost sur le métier d'enfant. Avec vraiment une étude, à travers les jouets, mais ça a aussi été travaillé par des tas d'auteurs comme Sandrine Vincent, qui avait fait sa thèse là-dessus, Gilles Brougère, en termes de sociologie, de socialisation de genre également. Donc c'est vrai que j'y reviens beaucoup parce que c'est un exemple qui a été très travaillé et un exemple en quelque sorte assez patent, c'est-à-dire que les enquêtes de Sandrine Vincent le montrent bien. En gros, c'est pas les mêmes jeux, c'est pas les mêmes jouets, c'est pas les mêmes usages des jeux et des jouets selon les classes sociales. Donc c'est aussi un exemple qui fonctionne bien avec les étudiants, avec les élèves, parce que c'est très parlant et qu'on en a déjà une idée. Et puis qu'on voit aussi en quoi, et ça me paraît important de le noter, les différences de socialisation de classe se marquent pas seulement dans des différences de revenus, qui est souvent une idée, c'est difficile à faire passer, enfin, spontanément, les élèves, les étudiants, quand on leur dit qu'il y a des différences de classe dans la socialisation primaire, ils vont penser qu'il y a des riches et qu'il y a des pauvres. Et les travaux en termes de socialisation, c'est de dire c'est pas seulement ça, la structure sociale, c'est pas seulement des différences de revenus. Et donc, certains jeux, justement, à connotation plus éducative, vont être préférés par les classes moyennes ou les classes supérieures, etc., ou vont être utilisés d'une certaine manière. Et de même, là, pour la socialisation de genre, c'est quelque chose qui est encore plus patent au sens où, quand on regarde, ne serait-ce qu'encore aujourd'hui, les catalogues de jouets de Noël, on voit très bien que ce ne sont pas les mêmes poupées ou camions de pompiers qui sont offerts aux petites filles ou aux petits garçons. Et plus généralement, les enquêtes le montrent, c'est-à-dire que là aussi, dans les jouets, il y a une détermination très précoce de ce que vont être les goûts, les qualités qui vont être développées, les défauts qui vont peut-être être justement négligés en quelque sorte. Ben, c'est pas grave si une petite fille elle est un peu plus craintive, etc. Là aussi sur la socialisation de genre, c'est intéressant parce que c'est vraiment un ouvrage assez fondateur, ancien, enfin, du côté des petites filles qui mettaient en avant le fait, moi c'est un des exemples qui m'avait frappé, je pense que je l'ai remis dans le 128, mais comment on apprenait à une petite fille à lancer un ballon avec la main et un petit garçon à shooter dedans. Enfin, ce sont des choses assez simples, mais on voit bien comment répéter avec ce que j'appelle plus loin dans le 128 les socialisations de renforcement, c'est-à-dire le fait qu'une même expérience ou une expérience homologue qui est répétée encore et encore va se traduire en quelque sorte forcément au bout du compte et finalement assez précocement par l'incorporation de dispositions de genre en l'occurrence qui seront ensuite très stables et puis tout à fait effectives, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à s'actualiser d'autant plus qu'elles sont régulièrement renforcées. Mais effectivement c'est un exemple qui est un exemple classique. Bernstein aussi, je ne l'ai pas cité, mais dans les premiers travaux sur la socialisation, je dirais, on pourrait dire que cet objet empirique-là a vraiment une place particulière, je pense, parce qu'il est très parlant, C'est aussi, enfin, je pensais dans les. On voit que c'est aussi donc des pratiques qui vont, enfin, qui vont en gros former d'une certaine manière les enfants, qu'ils soient garçons ou filles, selon le milieu social, etc. C'est aussi des conceptions de l'enfance qui se révèlent et qui donc sont opérantes au-delà même hein, des jeux. C'est-à-dire que, voilà, quand on a une conception éducative de ce que c'est que la petite enfance, ça se traduit pas seulement par les jeux, mais ça se traduit par. Pas de télé ou la manière dont on va utiliser la télé, etc. Enfin, c'est voilà, ce sont des choses qui vont rayonner bien au-delà, évidemment, du jeu lui-même ou du jeu lui-même. Mais je pense qu'il y avait aussi l'idée pour les sociologues qui ont travaillé là-dessus de montrer que apparemment, cet espace ludique, cet espace, en gros, de la liberté, il était fortement contraignant. Et ce qui est un peu aussi le travail des enquêtes en termes de socialisation, d'aller voir, en gros, la contrainte sociale sans que sans la condamner, c'est-à-dire elle est là, donc il faut aller la voir, dans des choses comme ça, ludiques ou discrètes, ou enfin qui sont pas, où on n'a pas forcément l'impression que la société joue à plein, même si, comme je le disais sur l'exemple des garçons-filles, je pense que toute personne, enfin, il n'est pas forcément nécessaire d'être sociologue de socialisation pour voir qu'il y a quelque chose là-dedans, quoi. Enfin, voilà. Il suffit d'avoir été enfant, peut-être. Hein.
Sinon, pour parler d'une autre forme de socialisation, donc vous développez assez longuement le cas de la socialisation professionnelle et vous prenez les exemples de l'étude de Robert Merton sur The Student Physician et The Boys in White qui a été dirigée par Everett Hughes. Et alors pourquoi on s'est demandé pourquoi ce choix de confronter longuement ces deux études, pourquoi ces études-là et pas d'autres, et pourquoi.
Non, mais alors, il se trouve que c'était des études qui m'intéressaient beaucoup, donc ça, c'est déjà une certaine manière de répondre à la question. Mais je souhaitais de toute façon faire quelque chose de la socialisation professionnelle, sachant que par ailleurs, il y avait le manuel, enfin l'ouvrage de Claude Dubarth sur la socialisation, qui est un monument là-dessus et qui notamment accordait une place absolument énorme à tout ce qui était socialisation professionnelle. Et l'idée, c'était autant sur d'autres chapitres, je voyais comment je pouvais tout simplement prendre les choses soit autrement, soit différemment. Pour qu'il y ait un intérêt quand même à ce qu'il y ait un autre, j'allais dire son de cloche, mais bon, c'est quand même voilà, un autre ouvrage qui existe sur la socialisation que celui de Claude Dubarth. En revanche, sur la socialisation professionnelle, c'est vraiment, il y a deux parties, c'est extrêmement long, c'est extrêmement détaillé. Donc, bon, je cherchais une manière de ne pas être simplement soit dans la redite, soit dans le résumé, enfin bon, je cherchais quelque chose à faire de ce côté-là. Par ailleurs, j'avais une autre envie qui était de montrer sur, en gros, un même objet, les différentes approches possibles de la socialisation. Or, il se trouvait que là, sur la socialisation donc des étudiants en médecine, des futurs médecins, on avait vraiment, c'est pour ça que j'utilise, enfin, pardon, je finis ma phrase, on avait vraiment au même moment deux enquêtes d'orientation, au même moment, bon, pour dire large, deux enquêtes d'orientation très différentes, une enquête fonctionnaliste, une enquête interactionniste sur le même objet. Donc oui, j'utilise une métaphore un peu, la métaphore du split screen, parce que moi, quand je lis ces ouvrages, qui notamment, enfin, quand on lit Boys in White, donc l'ouvrage des interactionnistes, il y a des petites remarques, des petites piques, des petites, enfin, petites piques, ça fait, j'ai beaucoup de respect pour cet ouvrage, donc ça fait un peu boutade, mais en gros, des références à ce qui est une sorte de lutte hein, pour la définition de la socialisation légitime, pourrait-on dire, pour employer des termes qui sont ni de l'un ni de l'autre, ni de l'une ni de l'autre des orientations sociologiques qui sont là, mais en tout cas vraiment une sorte d'onde de dialogue oui, ou peut-être même de lutte. Je trouvais que ça faisait un peu bande de gangsters quoi, qui s'opposent. Et du coup là aussi, ça me semblait pour un manuel être bien, c'est-à-dire rendre ça. Il me semble que ça permettait de rendre vivante cette opposition, ce que c'est qu'une socialisation fonctionnaliste, ce que c'est qu'une socialisation interactionniste, la rendre vivante parce que prise un peu dans ce conflit, et aussi du coup de voir un peu sur pièce. C'est vrai qu'on n'a pas si souvent que ça, à part justement une boutade qu'on connaît par Jean-Michel Chapouly notamment sur la différence entre une même enquête faite par les fonctionnalistes ou les interactionnistes. Là, c'est ethnographie d'un bar de la 55e rue pour les interactionnistes. Et puis, fonction latente et fonction patente de l'alcool, etc. Enfin, je le cite de mémoire, mais on peut retrouver la boutade. Bon, en tout cas, là, on avait l'occasion vraiment sur un même objet de confronter, voilà, deux enquêtes d'orientation très différentes. Donc, du coup, ensuite, c'est vrai que je pense, enfin, tout à fait honnêtement, que je me suis prise au jeu, c'est-à-dire que je suis rentrée extraordinairement dans le détail quand je préparais le 128. au point de me rendre compte après coup que ça prenait vraiment une place, ne serait-ce que numériquement importante. En même temps, bon, j'ai évidemment coupé, mais j'ai souhaité laisser après tout aussi cette place-là, tout simplement parce que c'est des ouvrages qui sont écrits en anglais, qui ne sont pas traduits, qui le seront sans doute jamais, au sens, enfin, il y a quelques bouts traduits, mais ils ne le seront jamais totalement, vu que maintenant, évidemment, ils commencent à dater, donc c'est toute la question de la traduction de classique, etc. Mais du coup, en plus, il me semblait qu'offrir, alors tout à fait modestement, mais des sortes de fiches de lecture ou de vision de ces ouvrages-là, là aussi, pour un manuel, c'était pas quelque chose, enfin, c'était quelque chose qui pouvait être utile. Donc, toutes ces raisons mises ensemble expliquent cette espèce de gros plan sur la socialisation des étudiants en médecine, sachant que, bon, pour finir, c'est vrai que c'est un thème qui a été historiquement important en sociologie, voilà, pour ces deux, pour la sociologie américaine, tant fonctionnaliste qu'interactionniste, sur lequel il y a eu ensuite beaucoup d'écrits, etc. Donc, c'était pas non plus, c'est vrai, n'importe quel objet. Je dirais, je ferai la référence à votre question précédente, hein, sur les jouets, mais il me semble que ça joue à peu près le même rôle, c'est-à-dire vraiment un rôle d'étude forte, enfin, voilà, qui ensuite a servi en quelque sorte de contexte ou d'horizon de beaucoup de choses qui ont suivi après, en fait. Donc là, voilà, en proposer une lecture. Alors, quand je disais fiche de lecture, c'est peut-être un peu malhonnête en un sens, parce que c'est pas une lecture forcément objective, c'est la lecture que j'ai faite avec la grille d'analyse qui était la mienne, la vision qui était la mienne. Donc, en tout cas, notamment pour Boys in White, je propose une lecture possible de Boys in White, il y en a d'autres. En gros, ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir dans Boys in White tout ce qu'on, il me semble qu'on ne voit pas si souvent que ça dedans, c'est-à-dire de l'étirer du côté de ce que j'appelle une socialisation formatrice, transformatrice, c'est-à-dire l'effet des institutions sur les personnes. Boys in White est souvent un exemple, est souvent utilisé, disons, pour montrer que par rapport à la socialisation primaire, la socialisation par les pairs ou la socialisation, enfin c'est ça, par le groupe, ou la situation, pour le dire généralement, est beaucoup plus importante que tout ce qui est socialisation primaire ou socialisation par l'institution. Et l'exemple est utilisé en quelque sorte comme contre-exemple de... mettons l'institution totale chez Goffman ou de travaux de Bourdieu, etc. Ça m'intéressait d'aller voir de manière un peu peut-être, voilà, y compris avec un brin d'amusement, quoi, mais d'aller voir dans cet ouvrage-là ce qu'il y a aussi comme type de socialisation se rapprochant plus de la définition que j'en donnais, c'est-à-dire des faits assez forts, certes de la situation, mais aussi de l'institution sur les personnes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une socialisation par les pairs que les gens sont davantage libres de leurs actions dans l'interactionnisme, et c'est quelque chose qu'on voit bien dans Boys in White. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte, il y a des déterminations sociales, elles ne sont pas envisagées de la même manière que chez les fonctionnalistes, mais elles sont là, quoi.
Alors justement, quels sont les apports de l'analyse microsociologique et des enquêtes de terrain pour identifier l'effet des structures sociales sur la pratique des individus, et est-ce qu'elles remettent en cause l'approche globale de l'habitus?
C'est, alors là, c'est une question là aussi vraiment énorme. Je dirais que pour moi, d'une certaine manière, elles permettent véritablement de poser la question de la socialisation, ces enquêtes de terrain ou ces enquêtes au niveau des individus. C'est-à-dire que, et c'est aussi le choix que j'ai fait dans le 128, si ce qu'on veut regarder, ce sont les effets concrets, pratiques de la socialisation, la manière dont la société met... une fois incarné dans des personnes, dans des institutions, etc., la manière dont la société forme et transforme les individus, eh bien, ça doit se faire, ou en tout cas, ça ne peut pas mieux se faire, hein, qu'au niveau, justement, des individus, des enquêtes de terrain, du micro, etc. Et c'est là qu'on verra, justement, l'effet du macro sur le micro, c'est en regardant dans le micro, mais en regardant, du coup, avec des lunettes un peu spéciales, c'est-à-dire des lunettes branchées sur la découverte, enfin, la recherche des effets structurels, des effets, voilà, on va aller chercher des effets de détermination sociale dans des conduites individuelles, dans des choses qui peuvent apparaître comme des détails, au niveau des individus, etc. Et donc là, je ne suis pas du tout, évidemment, la seule à défendre une telle approche, mais je pense qu'en un sens, on va d'autant plus montrer la force de la socialisation qu'on va pouvoir la montrer au niveau individuel, c'est-à-dire au niveau où elle est incarnée. Donc de ce point de vue-là, je ne verrais pas ça comme a priori une opposition, mais au contraire, en fait, dans un retournement, comme la meilleure manière, en gros, d'illustrer les thèses de Bourdieu sur l'habitus, c'est d'aller les voir au niveau des individus. Donc ça, voilà, c'est encore une fois, c'est une formulation, je ne suis pas seule à penser ça, mais du coup, c'est aussi, ça a été un des choix que j'ai fait pour le 128, de choisir justement donc des enquêtes empiriques pour illustrer cette question de la socialisation, sachant que j'ai tenté de laisser autant que faire se pouvait, parce que des fois, il y a des contraintes de type passage obligé qui sont... Mais les textes trop théoriques sur les fonctions de la socialisation, sur la socialisation vue à l'échelle planétaire, de l'univers, etc., pour aller voir, en quelque sorte, effectivement, la socialisation incarnée, la socialisation au niveau des personnes, des institutions, des dispositions, donc avec ces trois, ces trois niveaux-là, dans l'ordre institutionnel. Personne disposition sans doute plutôt, mais voilà, d'aller la voir au niveau micro de ce point de vue là voilà, je me reconnais tout à fait dans le programme de recherche que lançait Bernard Lahir sur cette question, donc c'est pas du tout un hasard, mais en tout cas c'est vrai que je vois pas ça comme une opposition. Ensuite, le fait de regarder, de se poser ces questions-là qui sont des questions macro. Comment la société forme-t-elle les individus? Comment la société se reproduit-elle à travers la socialisation, etc. Le fait de les poser au niveau micro, ce qui est intéressant, c'est que forcément, ça amène à remettre en cause, mais je dirais plutôt, enfin, de manière ponctuelle, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas eu chez moi de conversion, de remise en cause plus globale, mais certaines conceptions qu'on peut avoir. Et d'une manière générale, enfin, ce qui, moi, d'ailleurs, d'une manière non pas générale, mais plus pointue au contraire, ce qui, moi, m'intéresse vraiment dans la question de la socialisation, c'est celle de la transformation des individus. C'est-à-dire que, tout en me situant dans une sociologie qui pense qu'en gros, les individus ne sont pas transformables comme ça, par un claquement de doigts, c'est-à-dire qu'il y a de l'incorporation, il y a des dispositions, donc il y a de la rémanence, de l'hystérésis, enfin tous ces termes qui veulent dire que, pour prendre là, cette fois-ci une expression de Spinoza, les individus sont amenés à persévérer dans leur être. Donc il y a ça, mais du coup, ce qui m'intéresse, c'est de me situer à l'intérieur de ce modèle-là, dans lequel je me reconnais, mais d'aller voir cependant tout ce qui est transformation des individus, c'est-à-dire tout ce qui va changer à l'intérieur de ce modèle. C'est-à-dire comment c'est possible, du coup, si on pense qu'effectivement, par exemple, les dispositions, les habitudes sont des choses qui résistent, comment cependant penser la transformation? Ce qui est évidemment plus difficile à penser que si on évolue dans un modèle où de toute façon, pas forcément de détermination sociale, où on peut s'inventer, etc. Dans ces cas-là, la transformation n'est pas du tout quelque chose de compliqué à penser. C'est beaucoup plus compliqué de réfléchir à, en gros, ce que les bourdieusiens appellent les conversions d'habitus, ou ce qu'on peut appeler les transformations individuelles, la transformation des dispositions, etc. C'est compliqué à l'intérieur d'un modèle, justement, où ces transformations sont pas simples, parce qu'il faut voir, alors, comment est-ce qu'on détruit les produits précédents? Est-ce que c'est toujours nécessaire? Comment est-ce que... la transformation est possible. Est-ce qu'elle est forcément, est-ce qu'elle nécessite forcément des institutions extrêmement fortes, par exemple, au sens où, pour détruire les produits très, très enracinés, en quelque sorte, des socialisations précédentes. Enfin, toutes ces questions-là. Je sais que j'utilise, enfin, souvent même pour moi, un passage d'un texte de Mauss sur les usages sociaux du corps qui est assez connu. Enfin, Mauss explique, c'est un cours qu'il fait à des élèves, et il explique qu'il a appris à nager d'une certaine manière en aspirant de l'eau et en la recrachant. J'imagine, enfin bon, on voit un peu, il devait avoir un maillot de bain un peu rayé, rouge et blanc, qui lui descendait jusqu'aux genoux, etc. Donc il a appris à nager de cette manière-là. Et il dit, je sais bien que ça sert à rien de cracher de l'eau comme un bateau à vapeur, ou enfin un bateau à aube, je dirais, mais ça c'est pas son terme à lui, mais je ne peux pas m'en défaire. Et du coup, la question que je pose, c'est à l'intérieur en effet d'un corps en quelque sorte comme ça, où il y a une hystérésis des produits des socialisations antérieures, comment est-ce qu'on pourrait, il pourrait s'en défaire? C'est-à-dire à quelles conditions? Est-ce qu'il faut qu'il, par exemple, qu'il passe des semaines, des mois, etc., dans une piscine avec un autre maître nageur qui essaye de lui apprendre à nager différemment, etc. Enfin, en gros, ce genre de questions-là, c'est-à-dire comment est-ce que la transformation reste possible, même quand on pense que la socialisation est puissante. J'ai peut-être dérivé un peu loin de votre question de départ, mais en tout cas, c'est un des thèmes aussi du 128.
Et donc, il y a un des thèmes justement dans la socialisation qui nous intéresse beaucoup, c'est celui de la question de l'inconscient, donc, que vous avez commencé à évoquer. Mm-hmm. Donc, Durkheim lui-même nuançait le caractère mécanique de la socialisation du fait des actions non intentionnelles dans le processus éducatif. Alors, est-ce que vous pensez que la prise de conscience du contenu de sa propre socialisation permet d'en contrecarrer les effets et jusqu'à quel point?
Alors là, c'est une vraie question au sens où, enfin, c'est en plus une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais je vois bien cette question. Est-ce que la connaissance des déterminismes nous rend libres par rapport à ces déterminismes? Disons que c'est ce que je pensais, alors j'allais dire quand j'étais jeune, mais donc disons il n'y a quand même pas si longtemps que ça, mais j'en suis venue à penser que parfois ça ne c'était pas la connaissance des déterminismes, c'était la connaissance des déterminismes, c'est-à-dire qu'on en restait à quelque chose qui était intéressant au point de vue cognitif, mais que ça se traduisait pas forcément ensuite par un passage pratique qui faisait qu'on pouvait davantage s'en libérer. Et ça, on sait aussi, enfin là encore au niveau individuel, on sait aussi comment la connaissance de certaines tendances qu'on peut avoir n'est pas suffisante, encore une fois, au niveau purement individuel pour s'en défaire. Les mauvaises habitudes sont parfois des choses dont on a du mal à se déprendre, même quand on le souhaite et quand on les connaît et quand on se connaît très bien, etc. Donc du coup, voilà, donc là aussi. Bon, ensuite, il y a évidemment la question à un niveau plus macro, plus politique. C'est évident que connaître les rouages d'une situation, et ce qui fait que le monde est monde, ça peut être une manière évidemment de le modifier. Ça peut être aussi parfois la voie du fatalisme, et ça arrive pour certaines. C'est-à-dire, enfin, on voit que les choses s'enchaînent tellement et sont tellement bien. En quelque sorte, combiner les unes aux autres, que ça paraît très très difficile de penser à un modèle qui permettrait d'en sortir. Hein. Donc de ce point de vue-là, enfin voilà, je livre moi aussi ces questions-là, au sens où j'ai pas forcément de réponse. En tout cas, j'aimerais croire que ce qu'on fait, c'est aussi effectivement quand on travaille sur la socialisation de classe, de gens, etc. C'est aussi pour s'en libérer et pas seulement pour la connaître. Mais déjà, disons que, bon, évidemment, c'est normal, j'ai un point de vue scolastique sur ces choses-là, on ne se refait pas et j'ai été socialisée comme ça. Déjà, la connaissance me paraît être une chose importante, même si l'action de changement est potentielle et pas effective, le simple fait de connaître, en fait, de savoir les choses. Là aussi, toujours Spinoza, qui est finalement un philosophe, hein, je ne cite pas beaucoup de philosophes dans le 128, mais sur la socialisation, ça me paraît vraiment une philosophie intéressante à mobiliser. En tout cas, c'est la question de l'ivrogne, c'est-à-dire en gros, mieux vaut savoir qu'on est en train de parler sous l'emprise de l'alcool, si ça ne nous fait pas taire, au moins peut-être qu'on peut atténuer certains effets, ou je ne sais pas, que de penser qu'on va très bien et que non, non, on n'est pas du tout sous, quoi. Et donc, effectivement, rien que la connaissance elle-même est, à mon avis, une chose qui est bonne. Ensuite, évidemment, si ça peut permettre de changer des choses qui sont qu'on voit comme mauvaises, ça n'en sera que mieux. Mais c'est vrai que je suis peut-être pas aussi positive que j'aurais pu l'être il n'y a que quelques années de ça.
Merci. Alors, vous mettez donc au cœur de votre analyse finalement le concept de socialisation continue, vous l'avez déjà évoqué. Vous distinguez en fait la socialisation de renforcement, la socialisation de transformation et la socialisation de conversion. Est-ce que vous pouvez revenir en fait sur ces axes d'analyse, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr, je peux. Mais je pense que vous connaissez bien mieux maintenant le 128 que moi-même. Donc, j'aurais presque envie de vous dire de les reprendre vous-même, mais je ne le ferai pas, c'est pas correct. Mais disons que c'est dans le dernier chapitre du 128 où j'ai essayé de proposer autant les premiers chapitres étaient tournés bah, classiquement, comme c'est le cas pour un manuel, davantage vers une explicitation des théories. J'avais envie de faire dans ce livre aussi un chapitre qui serait davantage tourné vers la recherche. Du côté du manuel de recherche, c'est-à-dire de donner des grilles, des outils d'analyse pour travailler la socialisation. Et ça, c'est quelque chose qui m'était venu en voyant, je crois que c'était un ouvrage de Edwin Lemert, donc un sociologue américain de la déviance, qui, à la fin d'une étude sur la déviance, proposait, c'était destiné vraiment explicitement aux étudiants, une sorte de grille d'analyse de la déviance. Il disait, bon, bah, pour travailler sur la déviance, vous devez identifier quels sont les groupes déviants, etc. Et il y avait une série comme ça de 50 conseils. Et j'avais trouvé que c'était très bien et du coup très pédagogie explicite en quelque sorte, c'est-à-dire voilà les idées qu'on a quand on est chercheur, elles viennent pas, enfin elles naissent pas un beau matin ou elles viennent pas quand on se gratte le crâne sur une falaise devant la mer, etc. Elles viennent quand on réfléchit comme ça à des grilles, enfin elles sont écrites, elles sont du coup davantage transmissibles, etc. Et j'ai essayé, alors bon c'est beaucoup plus humblement, mais en gros de fournir, disons, des axes d'analyse de la socialisation, et il me semblait en tout cas qu'on pouvait justement, enfin, différencier trois types, en gros, de socialisation, toujours pour poursuivre avec, j'en ai déjà parlé effectivement sur la question de la transformation, la manière dont la socialisation transforme, forme, puis transforme les individus. Donc, une socialisation de renforcement, ça c'est toutes les socialisations, par exemple, bon, un des exemples typiques, c'est la socialisation de genre, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir seulement un seul moment où on va être socialisé en tant que garçon ou en tant que fille, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments socialisateurs dans des situations différentes qui vont, en gros, renforcer les effets des socialisations de genre précédentes. Donc là non plus, je ne suis pas totalement fataliste. Il y a parfois justement des socialisations qui vont dans des sens différents. Mais en tout cas, disons que la socialisation de genre, c'est un exemple où il va y avoir plusieurs types de socialisations de renforcement au cours de l'enfance, puis de l'adolescence, puis même dans le travail, etc. Donc ce sont des socialisations qui ne vont pas proposer, enfin importer ou former de nouveaux produits dans l'individu, mais juste fixer en quelque sorte les produits des socialisations antérieures, refixer. C'est, pour le dire un peu de manière familière, c'est des socialisations qui en rajoutent une couche, simplement. Par rapport à ça, et à l'autre extrême, on a les socialisations dites de conversion. Donc là, on est à l'autre extrême, au sens où ce sont des socialisations qui transforment totalement un individu. Alors, ce que j'avais trouvé intéressant dans ce thème-là, c'est que c'est une sorte de thème qui fascine beaucoup de sociologues, cette question de la conversion. En ces termes ou dans d'autres, hein, sont les alternations chez Berger et Luckmann. Chez Bourdieu, c'est la métanoïa, donc, qui veut dire, voilà... qui signifie justement conversion, hein. Il y a le terme de conversion. En tout cas, ça fascine, et ça fascine, et c'est ça, c'est ce qui m'avait aussi amusé, intéressé, c'est que ça fascine des sociologies qui pensent que les conversions sont difficiles, sinon impossibles. Qu'on pense, bon, chez Bourdieu, la force de l'habitus, ça veut dire aussi que c'est difficile de remplacer un habitus par un habitus totalement différent. Et pourtant, la métanoïa, la conversion, la transformation totale, etc., c'est un concept qui est très présent, et qui est très présent. Là, je ne veux pas faire dans l'exégèse, mais en tout cas, qui est vraiment présent et qui a comme ça cette forme de... Enfin, qui fascine un peu. Et du coup, du côté des sociologues américains aussi, c'est assez présent, enfin, alternation, sachant que ce que j'avais trouvé intéressant, c'est de voir que cette conversion était pensée par eux avec souvent une enquête qui a été utilisée sur les lavages de cerveau dans la Chine communiste. Et donc, évidemment, pour des textes américains en pleine guerre froide, etc., il m'avait semblé que du coup, la connotation en fait, de alternation ou conversion dans cette sociologie américaine-là, il y en a chez Strauss aussi, hein, il y a ces transformations-là chez Strauss, était plutôt une connotation négative, en fait, avec cette image du lavage de cerveau qui revenait. Mais donc, voilà, donc ça, ce sont des conversions. On peut penser, du moins, on peut faire l'hypothèse, mais alors, elle est vraiment, c'est une hypothèse à trois sous que je forme, qu'en gros, les situations de conversion sont quand même assez peu fréquentes. En revanche, elles sont sociologiquement très intéressantes, d'où l'intérêt. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose aussi que je développe, ou que je mentionne dans le 128. Mais ce qui me paraît aussi intéressant, c'est que du coup, il y a des outils pour penser cette conversion. Par exemple, chez Berger et Luckmann, il y a des choses sur le converti qui m'ont paru tout à fait pertinentes, où ils disent en fait que le converti a besoin d'une socialisation en quelque sorte pour rester converti. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... j'avais une fois utilisé l'exemple, mais Claudel rencontre Dieu derrière un pilier de Notre-Dame. Donc là, c'est sur un... Voilà, c'est clic en un moment, en un instant, etc. Mais en fait, après, il y a quand même toute l'institution catholique qui va faire rester converti le converti. Et donc, ce sont des choses que proposait Berger et Luckmann, où on voit bien, en fait, y a vraiment beaucoup de choses à penser sur la conversion. Et c'est un exemple qui, à la fois... quand je parle de fascination des sociologues, c'est une fascination que je partage. Et du coup, quand j'avais travaillé sur l'anorexie, c'est vrai que j'avais travaillé l'anorexie comme une carrière de conversion. Et c'est effectivement, ça me paraît être un thème très intéressant, d'autant plus que je pense effectivement que c'est quelque chose de difficile et de socialement moins probable que d'autres formes de transformation d'un individu. Et donc, par rapport à ces deux pôles, donc pur renforcement et puis conversion, il y a tout un espace de ce que j'ai appelé les socialisations de transformation qui sont pour le dire vite par rapport à la conversion, des transformations limitées, qui peuvent être limitées par exemple à un domaine de disposition et pas à l'entièreté de la personne, qui peuvent être limitées dans le temps, par exemple les effets de l'institution totale chez Goffman, ce sont des effets qui peuvent être limités dans le temps, c'est-à-dire qui s'arrêtent à la sortie ou en tout cas qui peuvent s'arrêter, pour donner un exemple. Voilà, en tout cas, il y a d'autres exemples qu'on peut mobiliser de socialisation, disons, limitée, donc qui transforme, mais qui ne convertissent pas, au sens où ce n'est pas la totalité de la personne qui est radicalement et totalement transformée. Donc voilà, il me semblait qu'avec cette tripartition, en fait, ça pouvait donner des repères, en gros, pour quand on travaille sur une socialisation, bah déjà savoir à quel type de socialisation on est confronté. Et puis du coup, ensuite, je propose d'autres critères ou d'autres, juste pour caractériser en quelque sorte les socialisations sur lesquelles on travaille. Est-ce qu'il y a une place du langage importante ou est-ce que ce sont plutôt des socialisations davantage par corps ou silencieuses? Enfin, voilà, des critères comme ça, juste pour, parce qu'il me semblait qu'on était beaucoup en quelque sorte sur la socialisation, dans parfois juste est-ce que c'est primaire ou secondaire, et que, ma foi, on pouvait peut-être avoir des choses un peu plus subtiles pour caractériser le type de socialisation sur lesquelles on travaillait. Donc là, il y a une sorte de vocation un peu militante du 128 qui est de dire faut travailler sur les socialisations et voilà, et c'est intéressant et ça permet de faire de la sociologie de manière riche, quoi. Et donc c'est dans ce but que je propose cette grille pour donner envie en fait d'aller regarder sous le nez des socialisations.
Je me rends compte, j'ai oublié de vous dire de prendre un verre d'eau, mais on va pas vous retenir longtemps.
D'accord, j'ai une bouteille à côté de moi, donc
on peut y aller. Bon, juste.
C'est mon bureau, donc il y a à peu près tout ce dont je pourrais avoir besoin.
Non, c'est parfait. Bon, on s'oriente vers la fin, je dirais.
Oui.
Donc, vous précisez en fait que certains domaines d'études, comme celui de l'impact du mode de garde sur la socialisation des enfants en fonction de leur origine sociale, sont encore en friche. Pourriez-vous développer cet exemple et aborder d'autres domaines peu explorés par la recherche que vous évoquez dans le livre?
Oui, en fait, c'est là aussi, enfin voilà, donc je vais continuer dans cette optique militante, c'est-à-dire que je pense par rapport quand même à l'importance de cette question, et qui, enfin, alors évidemment, je vois midi à ma porte, et après tout, j'assume de voir midi à ma porte, c'est vraiment pour moi une question centrale dans la sociologie, c'est celle qui m'a donné envie de faire de la sociologie, en fait, mais je pense que je ne suis pas la seule à avoir eu envie de faire de la sociologie à travers cette notion-là de socialisation, et puis de la façon dont la société est présente en nous, en fait, en chacun de nous. En tout cas, ce que je sais, mais voilà, c'est que c'est souvent une manière d'intéresser des élèves ou des étudiants à la sociologie. Et moi, je suis restée peut-être un peu retardée de ce point de vue-là. J'ai pas dépassé ce stade-là, et donc je suis restée très enthousiasmée par toutes les manières qu'on a de se trouver, en gros, la société en nous ou dans les autres, et en gros de voir notre monde de manière à peu près constante avec les lunettes de la sociologie. Donc, pour ça, il me semble que la socialisation est au centre, et il me semble que par rapport à cette centralité, encore une fois que j'assume mon caractère très partisan, en plus j'appartiens à un laboratoire qui s'appelle Groupe de recherche sur la socialisation, donc évidemment toutes mes billes sont dans ce panier-là, et je voilà. Donc par rapport à ça, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Au sens où, si on part du principe effectivement que la famille n'est pas la seule instance de socialisation primaire, du coup, une fois qu'on a dit ça, ça ouvre la voie à plein de choses. C'est-à-dire, effectivement, si les enfants sont gardés par des nounous qui ne sont pas de la même origine sociale que leurs parents, par exemple, bon, ça c'est des choses que je développe un peu dans le 128, en gros, peut-on parler d'une socialisation primaire de classe uniforme? Voilà, si, enfin, tout ce qui est la question, la manière dont le mode de garde rencontre la question de la socialisation de classe, hein, me paraît très intéressant. C'est-à-dire que de fait, on a, bon, ça c'est aussi le côté, le quali comme support du quanti, c'est-à-dire que quand on va chercher les résultats des socialisations en gros de classe dans les enquêtes statistiques, on sait quelle a été la profession des parents, on ne sait pas forcément qui a gardé l'enfant pendant ses 10 premières années d'existence. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que de fait, les effets, je faisais référence au tout début de la conversation à la manière dont ça rencontrait des questions de sociologie historique. Après tout, les jeunes aristocrates élevés par les domestiques ne l'étaient peut-être pas tant que ça, élevés par des domestiques, ou en tout cas, ça ne les a jamais fait devenir rustaux ou domestiques eux-mêmes, évidemment. Donc, en tout cas, voilà, la manière dont se croise la question des modes de garde avec la socialisation de classe. Et évidemment, enfin, là, je l'ai fait plutôt parce qu'il me semble que c'est l'angle le plus parlant en quelque sorte. Mais on peut effectivement se demander. En sens inverse, et ça c'est peut-être plus fréquemment fait, quand on étudie le choc que peut représenter l'arrivée à l'école pour des enfants qui sont en gros socialisés dans des familles populaires avec une vision du monde qui est différente de celle portée, mettons, par l'institutrice. Bon, ça, ce sont des choses qui sont davantage travaillées sur la rencontre de ces mondes-là et la manière dont il y a, en quelque sorte, un conflit de socialisation, ou en tout cas des demandes scolaires sont difficiles à satisfaire, en quelque sorte, pour des enfants qui sont porteurs de produits de socialisation autres, etc. Donc, bon, là, c'était sur l'école, mais en tout cas, dès maintenant, sur les modes de garde, il me semble qu'il y aurait des choses à faire, justement, qui sont assez passionnantes, parce que ce sont des questions à chaque fois très concrètes, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que, mettons, même garder plus longtemps que par ses parents par, encore une fois, ben, une nounou, mettons, de classe populaire, pour prendre cet exemple-là, un enfant va quand même développer des dispositions qui seront les dispositions de classe de ses parents. Puisque, enfin, normalement, en termes de sociologie de la socialisation, pardon, le temps est un facteur très fort, c'est-à-dire le temps passé, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Là, je fais quelques hypothèses dans le 128, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais sur, en gros, là, davantage des questions de légitimité, c'est-à-dire que quand il y a plusieurs instances qui sont représentées auprès de l'enfant, elles sont pas forcément même, enfin, elles sont pas forcément neutres, elles sont pas forcément posées sur un même plan de légitimité, et j'utilise voilà un texte d'Alvax qui dit « Les juges qui voient des criminels toute la journée ne deviennent pas criminels pour autant ». Là aussi, c'est ma formulation, celle d'Alvax est évidemment beaucoup plus fine, mais en gros, le simple contact ne va pas amener une socialisation des uns sur les autres. Et d'après Alvax, tout simplement, c'est parce qu'il y a l'institution judiciaire et une hiérarchie, une violence symbolique qui va dans le sens, enfin qui met les juges en position de ne pas être socialisés par le contact avec les criminels. Donc voilà, donc avec ce genre de questions, il me semble que ça agite aussi justement quels sont par exemple les garde-fous que certains parents de classe supérieure peuvent développer pour qu'il n'y ait pas effet socialisateur de certains gardes de leurs enfants, ou des choses comme ça en fait, qu'on peut imaginer. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire, hein, et très concrètes, hein, et effectivement qui... je ne dis pas que ça a jamais été évoqué ou travaillé, j'ai pas du tout cette prétention-là, mais en tout cas qui est assez peu, je pense, encore une fois, par rapport à la centralité de la question, assez peu développée. Voilà, d'une manière générale, je dirais que sur la question des transformations, enfin sur la question dont j'ai déjà parlé comme étant celle qui m'intéresse vraiment, de la transformation des individus tout en se plaçant dans un univers où en gros cette transformation n'est pas évidente, il me semble qu'il y a eu aussi peu de choses, et d'ailleurs en fait, j'avais travaillé en thèse à une sociologie de l'anorexie, donc je l'ai mentionné tout à l'heure, en travaillant l'anorexie comme une carrière de conversion, et de fait à la fin de ma thèse j'ai cherché à comparer cette situation-là à d'autres situations, c'est-à-dire où est-ce que je pouvais trouver des carrières de conversion des individus comparables à ce que je voyais sur l'anorexie, justement pour m'aider à, en quelque sorte, soit généraliser, soit simplement mieux comprendre la spécificité de la carrière anorexique. Et en fait, du coup, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'étais jeune, donc, et de fait, j'ai trouvé assez peu de textes qui me permettaient de comparer précisément la carrière de conversion anorexique à d'autres carrières de conversion, c'est-à-dire de textes qui parleraient de socialisation. Alors là, en l'occurrence, c'était à modalité volontariste, c'est-à-dire des gens qui rentraient volontairement dans une carrière de transformation d'eux-mêmes, avant que l'hôpital n'intervienne, et là, on est dans un autre mode. En gros, en quelque sorte, les socialisations institutionnelles, à mon avis, ont fourni plus de travaux en sociologie, si on veut regarder comment une institution va former ou pas des personnes. Voilà, il n'y a pas énormément de travaux, mais il y en a. En revanche, sur des carrières en gros de socialisation, où on aurait quelque chose de précis sur comment les personnes sont transformées par l'entourage, par etc., mais il n'y avait pas tant d'exemples que ça. J'avais utilisé par exemple les travaux de Loïc Vacan sur les boxeurs, mais là c'était davantage le gymnase, donc l'institution qui les transformait. En tout cas, bon, il n'y a pas il me semble, tant que ça, de travaux sur la socialisation telle que je l'entends. Donc là encore, c'est vraiment, il y a des tas de chercheurs, des tas de sociologues qui définissent la socialisation autrement et qui donc vont pas avoir, enfin vont davantage trouver de choses qui leur correspondent dans ce qui existe ou qui se dit sur la socialisation. Mais voilà, pour regarder la socialisation au niveau des individus, des produits, des pratiques de manière précise et dans un modèle où en gros voilà, à la fois la socialisation est continue mais elle est forte en même temps, c'est-à-dire que la société agit véritablement sur les individus, les forme et les transforme, il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire. Et même les mentionner, enfin c'est pour ça aussi que j'ai du mal à les mentionner, c'est que c'est pas seulement s'il y avait que quelques trous à combler, c'est qu'il y a vraiment un programme de recherche, je pense, hein, donc voilà, donc personnellement je vais m'y employer, mais j'espère que je serai pas la seule.
On se demandait sinon quels étaient les aspects de la socialisation que vous n'avez pas pu aborder du fait du format réduit en fait de la collection 128. Parce qu'on voit que vous avez beaucoup de choses à dire, donc j'imagine que vous avez
Non,
des loupes.
c'est l'excitation d'utiliser un matériel aussi sophistiqué voilà, au téléphone, il y aurait moins de choses. En fait, c'est certains regrets que j'ai, enfin véritables et qui étaient des regrets enfin, tout en écrivant le 128. C'est vrai que la taille est courte, par ailleurs, bon, il faut bien aussi s'arrêter à un moment, c'est-à-dire que c'est aussi bien, je pense, d'avoir des contraintes de taille de ce type-là. Mais j'aurais souhaité pouvoir, donc je parle de socialisation de classe, je parle de socialisation de genre, j'aurais souhaité pouvoir aborder d'une manière ou d'une autre tout ce qu'on pourrait mettre, enfin, et je ne savais d'ailleurs même pas comment le désigner, ce qui est un signe aussi de questions qu'on se pose vraiment en sociologie aujourd'hui, mais tout ce qui aurait été de type socialisation ethnique ou de race, comme on dirait aux États-Unis. Sachant que une de mes questions principales, c'était est-ce que il faut faire quelque chose à part pour ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait faire quelque chose de spécifique sur, mettons, la socialisation primaire familiale des enfants issus d'immigration, comme on dit aussi, qui serait différente, mettons, d'une socialisation de classe? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qui sont spécifiques à ce type-là de socialisation? Et si je faisais sur les enfants d'origine maghrébine, pourquoi je ne faisais pas les enfants d'origine auvergnate? En quoi est-ce que ça exigeait une spécificité? Donc, il y avait cette question-là politiquement qui me gênait. En même temps, je pense, enfin, si j'avais trouvé des travaux qui prenaient cette chose-là par l'angle de la socialisation, je pense que j'aurais pu davantage leur faire une place. Mais en tout cas, là, c'était quelque chose. Voilà, on commence de plus en plus. Alors, il y a l'importation, certes, d'un modèle américain, mais je pense qu'il y a aussi des vraies questions derrière à se dire que par rapport au genre et à la classe, il y a aussi, encore une fois, ce qui s'appelle race aux États-Unis, caractéristiques ethniques, etc. Sachant que c'est extrêmement, enfin, moi, ça me paraissait très, très délicat de faire un sort particulier à cette question-là. Mais en tout cas, bon, j'aurais souhaité peut-être la développer plus. Voilà, ça en tout cas, c'était quelque chose que j'avais en tête. Ensuite, bon, bah, j'ai un certain nombre de regrets, de textes ou voilà, mais disons que, en gros, je pense que j'ai essayé, la manière dont j'ai travaillé, ça a été de construire un objet par rapport au gigantisme, a priori, de cette question de la socialisation, qui potentiellement pouvait englober enfin, l'entièreté de la sociologie, si on définit la socialisation de manière plus ouverte que je ne l'ai fait. J'avais essayé de travailler avec une définition volontairement restrictive, volontairement pointue, volontairement aiguë. Et du coup, je pense que ça m'a aidé justement à avoir pas tant que ça de regrets, c'est-à-dire que, voilà, une fois que, en introduction, enfin, ça s'est fait avant évidemment, mais dans l'introduction, j'explique le processus. Une fois que j'avais ôté un certain nombre de significations pourtant importantes de la socialisation, où j'avais ôté des pans entiers de théorie de la socialisation, par exemple l'anthropologie culturelle, par exemple la psychologie du développement, etc., après, j'aurais été gonflée si j'avais trouvé qu'en plus, je n'avais pas la place de parler de ce dont je voulais parler. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'il y a aussi, avec cette définition aiguë, en gros, limiter les choses dont j'aurais souhaité parler, mais dont je n'ai pas pu parler. Maintenant, il y a évidemment, sûrement, des tas d'oublis ou des tas de manques criants qui ne seront pas forcément vus de la même manière par les différentes personnes ou les différentes. Voilà. Mais en tout cas, disons que j'ai essayé de faire quelque chose de cohérent, c'est-à-dire où les manques sont cohérents entre eux, c'est-à-dire, enfin voilà, j'ai essayé de proposer une vision, encore une fois, très restrictive, mais que j'ai essayé de rendre cohérente et rigoureuse de la socialisation. Et notamment, enfin, je ne sais pas si je continue encore, mais notamment, en fait, vraiment une question importante pour moi, la principale, je pense, c'est le terme de socialisation. On pourrait dire globalement qu'il a deux sens en sociologie, deux sens majeurs. Il y a deux colonnes de la socialisation. Un premier sens qui est, enfin, et c'est peut-être le deuxième, mais qui est celui donc, que je propose en 128 et qui est vraiment l'action de la société sur les individus, façon dont la société forme et transforme les individus. Sachant qu'il ne faut pas dire société, ensuite il faut aller voir précisément, etc. Mais voilà, une définition que je propose. Le deuxième sens, vraiment, ou paquet de sens, ensemble de significations vraiment importants, c'était plutôt la manière dont les individus font société. Et ça se rattachait davantage à des sociologies de la sociabilité ou du lien social. Et ça, c'est un sens, par exemple, enfin, chez Durkheim, les deux sens sont proches. C'est-à-dire qu'on a une théorie de la socialisation chez Durkheim qui, par exemple, dans le repère de Philipp Steiner sur Durkheim, il y a tout un chapitre qui s'appelle Sociologie de la socialisation et qui parle en fait de la socialisation davantage en termes de morphologie sociale, enfin voilà, de manière dont les individus font société plus que de la manière dont la société fait les individus. Et tout cet ensemble de significations-là, et bon, qui est aussi, pardon, je cite Durkheim parce que mais c'est quasiment un contre-exemple, mais c'est chez Simmel que vraiment la socialisation a cette signification-là. Et j'en parle un peu dans l'introduction, mais de fait, j'ai volontairement scindé ces deux significations pour ne conserver que la première. Et là encore, enfin, je veux dire, du coup, c'est un manque en quelque sorte. En même temps, j'ai essayé de rendre ça cohérent et je l'ai fait en partie parce qu'il y avait ces contraintes de taille, en partie aussi parce que fondamentalement, je pense qu'on parle de deux choses différentes. Et je pense qu'on parle de deux types de textes différents, de deux types d'enquêtes différents, de choses qui se touchent. On le voit très bien avec l'exemple de Durkheim, la manière dont la société forme les individus et dont les individus forment la société, ce sont évidemment pas des choses indépendantes, deux choses qui se touchent, mais qui sont quand même suffisamment différentes pour être séparées dans un manuel. Et du coup, j'ai privilégié, exclusivement, c'est plus que privilégié, une signification sur l'autre. Voilà, la deuxième signification est davantage présente dans l'ouvrage donc de Claude Dubard. Elle est davantage présente dans des tas d'autres textes qui parlent de socialisation, mais qui en parlent pour moi donc de cette manière-là, qui n'est pas la même que l'action de la société sur les individus, encore une fois. Donc voilà, ça a été peut-être le choix le plus. Mais disons que par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure sur la socialisation ethnique, c'est un choix qui est davantage assumé en fait et qui est, voilà, j'ai fait le 128 de cette manière-là. Donc voilà, ça veut dire que là aussi, il reste du travail pour plein d'autres gens. Donc c'est une bonne nouvelle aussi.
Et justement, en ce qui concerne votre travail à vous, quels sont vos sujets actuels de recherche?
Alors, ben, ça vous étonnera peut-être, je travaille sur la socialisation, mais en gros, j'ai, disons, deux lignes, enfin, deux enquêtes empiriques en cours parallèlement, sachant qu'il y en a une qui, pour l'instant, est privilégiée par rapport à l'autre, mais en quelque sorte, donc, c'est continuer à travailler les questions de socialisation, c'est continuer à travailler les questions de transformation des individus. Mais travailler en version un peu la tête et les jambes, si on veut, c'est-à-dire mes recherches actuelles vraiment portent sur les classes préparatoires aux grandes écoles hein, comme justement ben, lieu de socialisation et donc lieu de socialisation institutionnelle par les pairs, etc. Je suis vraiment enfin, en plein dans le travail empirique, hein, donc je ne sais pas du tout bien en parler pour l'instant. J'espère que ça viendra un jour, mais c'est travailler. Disons que ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller voir une institution qui est, qui se donne à voir comme une institution puissante, socialisatrice puissante, au sens où, vous savez, il y a la question de savoir si l'école est encore une institution socialisatrice puissante. Ce qui est certain, c'est que les classes préparatoires, je pense, le sont, a priori. Donc, c'est d'aller voir cette institution socialisatrice puissante-là et de voir ses effets sur les individus, donc les élèves de classes préparatoires. Donc, ça, ce sont mes recherches en ce moment. J'ai aussi commencé, et puis je poursuivrai, une recherche sur les Weight Watchers, donc les groupes d'amaigrissement de type alcoolique anonyme. Enfin, c'est juste pour ceux qui ne connaîtraient pas cette chose-là, mais en tout cas, donc sur les Weight Watchers, comme là aussi, lieu de socialisation institutionnelle. Donc là aussi, apparemment, un lieu de socialisation où l'institution qui socialise est une institution puissante, donc à voir. Mais pour poursuivre aussi davantage sur la question de la socialisation corporelle, hein, qui était donc évidemment assez importante dans mes recherches sur l'anorexie, en quelque sorte, aller voir une institution. Voilà, qui transforme corporellement, mais pas seulement corporellement, les individus là aussi. Donc voilà, donc c'est en quelque sorte dispatché, je faisais la blague, la tête et les jambes, sachant que ce qui est intéressant, c'est que là, il y a évidemment de la socialisation corporelle en classe préparatoire, il y a évidemment de la socialisation, disons, morale, mentale, voilà, pas seulement au corps, chez les Weight Watchers. Donc il y aura un dialogue forcément entre ces deux terrains, même si a priori, on ne peut pas dire qu'ils aient grand chose à voir, mais enfin j'espère avoir fait passer le fait qu'ils ont grand chose à voir quand on les regarde sous l'œil de la socialisation et de la question des transformations individuelles. Donc voilà, enfin à suivre.
C'est lequel que vous privilégiez entre les deux en fait?
Pour l'instant, en fait, je suis sur les classes préparatoires. Parce que, enfin voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir commencer l'enquête et je les suis depuis, du verbe suivre, donc depuis septembre dernier, en fait, je suis enfin, quatre classes et du coup, je vais les suivre jusqu'au concours. Donc, c'est des classes préparatoires, je précise, scientifiques et économiques, donc pas de classes préparatoires littéraires, voilà, que je connaissais par ailleurs et sur lesquelles je n'avais pas forcément envie de travailler. Pour cette raison-là, mais du coup, voilà, donc j'ai fait la rentrée avec certains des élèves et je les suivrai jusqu'au concours. Hein, et du coup, c'est vrai que de toute façon, enfin voilà, l'enquête empirique a ceci, enfin je trouve d'extraordinaire, c'est qu'elle amène vraiment à poser des questions, enfin elle interroge les concepts, quoi. C'est-à-dire que la socialisation, c'est a priori c'est facile de penser que l'institution socialise, l'institution des classes préparatoires. La question c'est comment ça se voit et est-ce que ça se verra sur les 2 années de classes préparatoires? Et donc bon, pour ça j'ai mobilisé une méthodologie qui est les entretiens successifs. Hein, donc j'en suis là la troisième vague d'entretiens. Et normalement, si la sociologie a raison, bah, ça doit se voir. C'est-à-dire que les entretiens au temps T2 avec 6 mois après doivent manifester que la personne a été transformée d'une manière ou d'une autre. Outre ce qu'elle dit, il doit y avoir d'autres, enfin des critères de transformation, etc. Donc enfin voilà, ce sont sur ces choses-là que je fais en ce moment. Et donc oui, c'est un terrain qui me prend enfin, tout le temps que je n'ai pas consacré à autre chose. Et du coup, pour l'instant, les White Watchers sont plus en attente. Voilà. Donc d'abord, je passe Polytechnique et puis ensuite, je ferai un régime seulement après.
Très bien. Merci beaucoup de nous avoir consacré tout ce temps.
Mais merci à vous.
Et à très bientôt.
À très bientôt.